Et voici maintenant la revue de presse internationale d'Éric Biégala. Bonjour Éric.
Bonjour Guillaume.
Et on va commencer tout de suite par le continent américain, Éric.
Oui, aux États-Unis, en effet, la presse se concentre ce lundi matin sur le tirage qu'il peut y avoir entre l'administration centrale et les gouverneurs des différents États américains dans la lutte contre le coronavirus. Des gouverneurs qui sont sur la corde raide, titre ainsi le New York Times, alors qu'ils réclament davantage d'aide fédérale de la part de Washington, tout en critiquant l'absence de stratégie globale de cette même administration Trump à Washington. Le quotidien rappelle que lors d'une conférence téléphonique avec tous les gouverneurs des 50 États américains le mois dernier, Donald Trump les avait assurés que le gouvernement fédéral serait à leur côté et que c'était bien à eux, à chaque État, qu'il revenait d'acheter les produits médicaux dont ils avaient besoin, masques chirurgicaux ou respirateurs pour lutter contre l'épidémie. Résultat, les États se sont retrouvés en concurrence les uns avec les autres. Un autre État a surenchéri sur notre commande de masques et nous est passé devant pour les obtenir, a par exemple dénoncé le gouverneur républicain de l'Arkansas sur Meet the Press, la grande émission politique du week-end de la chaîne NBC. Sur Fox News Sunday, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, une démocrate, elle, exprimait sa frustration de ne pas avoir de stratégie nationale pour tout le pays, au lieu de ce qu'elle appelle le patchwork actuel, chaque stratégie étant basée sur l'identité de tel ou tel gouverneur. Sur CNN, John Bel Edwards, le gouverneur de Louisiane, l'un des États les plus touchés par la pandémie de coronavirus, prévenait lui que les ressources médicales de la Louisiane seront dépassées en moins d'une semaine s'il ne recevait pas d'aide fédérale. Donald Trump a bien annoncé la distribution de 1700 respirateurs supplémentaires pour les hôpitaux des États les plus touchés, notamment le New Jersey et justement la Louisiane, rapporte The Hill. Et le gouverneur de Louisiane a bien confirmé en avoir reçu 200, mais assurait-il encore hier, ça ne suffira pas face à la vague épidémique des prochains jours. On sera à court de respirateurs d'ici le 9 avril, prévenait encore le gouverneur de Louisiane.
Et puis en Europe, Eric, c'est l'état de santé de la tête du gouvernement britannique qui fait les gros titres des journaux.
Oui, la plupart des titres de la presse britannique reviennent bien sûr ce matin sur le discours de la reine, diffusé hier soir à la télévision, un discours aux accents émouvants, évoquant l'esprit de la résistance pendant la dernière guerre, commente ce matin le Sun, le grand quotidien populaire. Mais le Sun revient d'abord et surtout sur l'hospitalisation express de Boris Johnson hier soir. Le Premier ministre a été transporté à l'hôpital parce que ses symptômes n'avaient pas disparu au bout d'une semaine, explique le quotidien. Le chef du gouvernement a en effet été contaminé par le Covid-19 et ses collaborateurs se sont dit inquiets de le voir toujours tousser et hoqueter au bout d'une semaine. Les médecins expliquent encore le quotidien que les symptômes de la maladie, s'ils sont persistants, peuvent parfaitement dégénérer en une pneumonie. Cette hospitalisation a été décidée par précaution, annonce le 10 Downing Street, et pourra se prolonger aussi longtemps que nécessaire. Le Premier ministre reste en responsabilité du gouvernement, mais c'est le secrétaire d'État aux affaires étrangères qui devrait présider la réunion gouvernementale autour de l'épidémie de ce matin, note pour sa part la BBC. Chris Mason, le correspondant politique de la chaîne, remarque pour sa part que le Premier ministre, tout comme la reine d'ailleurs, personnifie la réponse du pays face à cette pandémie. Les officiels du gouvernement assurent que Boris Johnson est toujours à la tête du gouvernement, écrit Chris Mason, mais l'indéniable réalité reste qu'il n'y a rien de normal dans tout ça. Les conseillers du Premier ministre, certains hauts fonctionnaires et d'autres ministres ont tous dû se mettre en quarantaine. Et au final, écrit-il, le Covid-19 non seulement paralyse notre économie, non seulement il rogne nos libertés, mais il pèse aussi désormais sur la capacité même de nos gouvernants à faire leur travail et en l'occurrence à répondre à l'épidémie.
Et puis on termine avec l'Asie, Eric. C'est la perspective d'une nouvelle grande dépression économique qui agite les commentateurs là-bas.
Oui, une catastrophe économique équivalente à la crise de 1929, ne peut être totalement exclue si l'épidémie se poursuit de la même manière, c'est-à-dire totalement hors de contrôle, et que la détérioration de l'économie réelle se trouve amplifiée par une éruption de risques financiers. C'est Zhou Jun, la directrice de la division internationale de la Banque centrale chinoise, qui lançait cet avertissement dans la presse pékinoise. Le coût économique de l'arrêt de tous les échanges de particulier à particulier pousse en effet de nombreux économistes à avertir que le choc économique de la pandémie pourrait être bien plus rude encore que la crise de 2008, voire que la grande dépression des années 30, renchérit le South China Morning Post. Et le grand quotidien de Hong Kong de lister Déjà, les marchés mondiaux sont en baisse de l'ordre de 35%, les marchés de crédit sont au niveau auquel ils étaient en 2008, et les grandes sociétés financières comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley s'attendent à une contraction de l'économie américaine de l'ordre de 6% pour les trois premiers mois de l'année et jusqu'à 30% pour les trois mois suivants. Interrogé par le quotidien, Nourdin Roubini, professeur d'économie de la Stern School of Business de l'Université de New York, considère lui aussi que la perspective d'une nouvelle grande dépression se précise de jour en jour, surtout, dit-il, parce que les économies les plus avancées ne sont pas parvenues à contenir l'épidémie. Et il prévient, après le crash de 2008, une réponse forte des États a contribué à faire remonter l'économie mondiale des abysses où elle se trouvait. Cette fois-ci, on n'aura peut-être pas la même chance, d'autant qu'on se demande bien qui pourrait être en mesure de renflouer les banques, les entreprises et même les ménages eux-mêmes dans les pays émergents. Le pire n'est certes pas le plus certain, temporise, toujours dans les colonnes du South China Morning Post, le professeur Terence Chang de l'Université de Hong Kong. L'économie mondiale pourrait parfaitement rebondir, mais pour ce faire, il faudrait que la plupart des restrictions aux échanges mondiaux puissent être levées d'ici juillet prochain, prévient-il. Pour le moment, on est encore loin du compte.
Merci beaucoup, Eric Biegala. Il est 7h48, suite des matins sur France Culture.